Bonjour, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 30 juin 2014. C'est donc le dernier du mois de juin. Et nous entrerons dans la période des vacances, qui sera pas intégrale pour nous, mais avec ce soir à l'antenne Jean-Pierre et en duplex à l'antenne aussi Robert et peut-être Michel nous rejoindra tout à l'heure, on va voir. Voilà, je voulais commencer bien sûr par une partie internationale. Robert, toi qui es un fan de football, tu avais un petit peu quelques introductions à le faire. D'ailleurs, on peut dire ennemi du foot, bonsoir, puisque on devrait perdre pas mal d'auditeurs ce soir, on est entre nous.
Donc tu peux y aller. Je crois que effectivement, on est victime d'une concurrence déloyale. Puisque les moyens de se faire entendre du football professionnel mondialisé et super financé est supérieur aux moyens dont nous disposons pour pouvoir faire entendre notre parole. Et effectivement, et ben, en ce moment même, l'équipe de France de football homme professionnel tente de gagner une place pour le tour suivant. Et on est tous les jours affolés par cette déferlante médiatique autour du football. Et cette déferlante médiatique, elle n'est pas essentiellement liée à la passion qui pourrait animer des gens sincèrement amateurs de jeu. On est loin de cette hypothèse-là. C'est l'argent qui est bien présent et on le voit notamment par le nombre de messages publicitaires sur les chaînes de télévision, à la radio et dans la presse écrite, mais surtout à la télévision naturellement, puisque c'est l'image qui emporte tout. Et c'est des sommes pharaoniques d'argent qui sont en ce moment, qui changent de main, qui se retrouvent en général dans les mains qui déjà en détiennent beaucoup. Et moi je disais que ce football professionnel, effectivement, c'est un scandale de plus à mettre au passif du capitalisme mondialisé, financiarisé, puisque aussi la finance est derrière tout cela. Et c'est un mauvais coup de plus à la lutte des peuples, y compris notamment des peuples latino-américains, qui ont beaucoup à faire, qui ont déjà beaucoup fait pour tenter de se libérer de l'emprise de l'impérialisme financier international, notamment américain, et qui font un compromis sous la pression idéologique dominante avec ce capitalisme totalement investi dans le football et dans d'autres sports d'ailleurs. Il n'y a pas que le football qui est sous l'emprise totale de l'argent. Je voulais justement cette Amérique latine, cette amérindienne, cette grande communauté amérindienne. Eh bien, j'avais sous les yeux un texte publié sur le site du Grand Soir. Et en fait, c'est écrit par un journaliste José Faure, qui a d'ailleurs son propre site. Et je vous recommande de le consulter, joséfaure.over-blog.com. Je répète, José, J-O-S-E, Faure, F-O-R-T, attaché, .over-blog.com. Et ce texte date du début du mois et il était titré « Les vautours sont lâchés sur l'Amérique latine ». Et il rappelait que dans ce texte, il y a eu les coups d'État institutionnels, par exemple au Paraguay ou au Honduras. Il y a désormais des opérations ciblées visant le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, le Salvador, le Nicaragua et Cuba, l'Argentine et le Brésil, qui sont pourtant considérés comme les enfants sages du progressisme latino-américain, eh bien, sont également dans le collimateur Au cours de ces dernières années, ces pays ont enregistré, alors que ces pays, justement, c'est ce qui gêne beaucoup le développement de la domination capitalistique mondiale, financière, au cours de ces dernières années, ces pays ont enregistré des avancées sociales importantes et construit des politiques indépendantes et souveraines débarrassées de la mainmise des multinationales. Ils ont travaillé à renforcer l'intégration régionale avec notamment la fameuse communauté des États latino-américains qui est actuellement d'ailleurs présidée par le Costa Rica. Le Costa Rica qui est également dans la compétition footballistique. Un nouveau paysage politique s'est installé dans ce continent qui était autrefois le précaré des États-Unis et des dominations des multinationales, notamment nord-américaines. Voilà, et donc on rappelle comment, par exemple, au Venezuela, alors que le Venezuela, toutes les élections régionales locales sont gagnées par le PSUV, qui est le parti de Maduro, eh bien, les médias occidentaux ne montrent que les manifestations de rue qui sont menées souvent par des milieux qui peuvent, des étudiants, des lycéens, bon, ça, c'est souvent dans la rue, mais on peut dire manipuler et surtout les manifestations sont amplifiées par la médiatisation y compris et médiatisation américaine mais aussi européenne. Les médias européens ne manquent pas et français notamment ne manquent pas d'en parler. On pourrait parler aussi de la Bolivie, l'Équateur, où carrément des contrats ont été placés sur la tête des présidents Morales et Correa, au Salvador, au Nicaragua, où les droites les plus extrêmes tentent de déstabiliser les gouvernements. Et puis, naturellement, Cuba, la bête noire, qui pourtant essaye de rester discret, mais tout en faisant des changements économiques dans sa gestion, mais c'est pas suffisant. Le blocus se poursuit, et comme par hasard, eh bien, toutes les multinationales, alors c'est là un peu les contradictions internes, mais on voit bien la logique. Les multinationales américaines et internationales européennes, comme par exemple Banque Paris Pays-Bas, sont frappées d'amendes énormes parce qu'elles ont passé des marchés avec Cuba. Et comme par hasard, donc, c'est Cuba qui, ces compagnies sont pénalisées d'avoir travaillé avec Cuba. Voilà, c'est tout cet environnement qui est à prendre en compte lorsqu'on parle de l'Amérique latine, notamment de ce Brésil où se déroule cette grande compétition footballistique, pseudo-footballistique, mais surtout financière, où finalement, les peuples ne sortiront pas grandis, mais on peut espérer que les peuples amérindiens, eux, ne souffriront pas trop des lendemains de cette fausse fête populaire.
Oui, pour compléter un petit peu la rubrique « Rien à foutre », deux petits sujets que je voulais aborder aussi. Celui de l'alcool, le Brésil est un pays vertueux. Ils avaient adopté depuis un certain nombre d'années l'interdiction de l'alcool dans les stades pour éviter certains débordements. Eh bien, vous savez-vous que la FIFA a exigé et obtenu donc la législation du Brésil a créé un moratoire pendant la durée de la Coupe du Monde pour autoriser les consommateurs à picoler de la bière, en particulier dans les stades, au motif qu'un des grands sponsors, je ne sais pas lequel c'est, je crois que c'est Conambo, mais je ne prête pas, un des grands sponsors de la Coupe du Monde, ben c'est un fabricant de bière, quoi. Donc on s'assoit sur les législations d'État, de santé publique. Merci le sport, merci la FIFA. Et puis une autre qui est pas triste non plus, c'est que il y a des gens qui ont compris le parti qui pouvait tirer de la médiatisation forcenée de ces événements. C'est Boko Haram au Nigeria, puisqu'ils ont annoncé que pour tout but marqué, ce soir, à l'heure qu'il est, eh bien, il y aurait un attentat de provoqué, je suppose un but marqué contre leur camp, mais peut-être que si le but est marqué par leur camp, on fera aussi un attentat pour fêter ça. Voilà comment la mondialisation mélange à ce moment-là la politique et le sport. C'est effectivement pour eux une formidable caisse de résonance. Et d'ailleurs, il semble que à l'occasion du dernier match du Nigeria, il y a eu des attentats de perpétrés par rapport aux événements qui s'étaient déroulés pendant le match.
Et on ne parle pas du tout dans les médias justement de ces centaines maintenant de jeunes filles, jeunes femmes enlevées au nom d'une idéologie rétrograde et insupportable au Nigeria.
Voilà, on arrête là avec notre rubrique « Rien à foutre ».
Oui, et en même temps, on est déjà dans la politique internationale et toutes ces vicissitudes et toutes ces injustices.
Alors ensuite, l'Irak, la Syrie, avec cette annonce aujourd'hui toute récente sur Internet, qui fait quand même l'effet d'une bombe médiatique, puisque c'est le but, c'est d'abord un coup de com'. Donc l'État islamique en Irak et au Levant, E2IL, annonce la constitution d'un califat qui a la prétention de mettre sous sa coupe 1,5 milliard de musulmans dans le monde, sous les directives sunnites de Abdou Bakr al-Abdabi, le nouveau dirigeant du groupe. Et ils comptent avec ça entraîner un maximum de monde dans leur lutte. Alors califat, ça veut dire quoi? C'est un retour d'une situation d'avant 1924, avant que les Européens viennent redéfinir les frontières de tous ces pays. Et c'est une donc prédominance gouvernementale au nom de la religion, bien sûr, et qui a vocation à être universelle. Alors ceci étant dit, ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire que les troupes sunnites d'extrémistes qui ont acquis quelques territoires, enfin acquis, occupent avec succès quelques territoires en Syrie et en Irak, tentent de les relier pour pousser à une autonomie politique des régions qu'ils ont mis sous leur coupe avec, je pense, plus que l'espoir, avec l'objectif d'élargir maximum ces zones-là à toutes les frontières environnantes et à tous les pays environnants. Est-ce que c'est simplement un coup de com'? Est-ce que c'est le début d'une histoire politique qui va nous occuper pendant de nombreux mois ou années? En tous les cas, ça pose question. On ne peut pas dire que ça passe inaperçu et qu'on ne puisse pas prendre en compte ces événements qui, sur leur terrain, ont leur résonance concrète, même si les Irakiens tentent de se ressaisir avec des ripostes, en particulier vers Tikrit, où l'armée menace haut pour reprendre la ville. Et avec l'aide, on sait maintenant, des Américains, mais sans doute des Iraniens, d'armement. On n'est pas encore bien au courant de tout ce qui se passe, mais il y a une tentative de contenir, bien sûr, cette avancée des sunnites sur l'Irak, aussi peu sympathique que soit son premier ministre, qui est toujours contesté, mais... La situation est tellement confuse que les alliances ont du mal à se vivre sans se reconstituer quelquefois à 180 degrés de ce qu'elles étaient il y a quelques mois.
Oui, on voit bien que d'ailleurs les Saoudiens laissent faire parce que ça les arrange, parce que effectivement c'est bien un nouvel épisode de la guerre religieuse entre ces deux branches de l'islam, que sont le chiisme et que sont le sunnisme. Ça arrange l'Arabie Saoudite parce que cette idée de califat, c'est-à-dire de contrôle territorial, c'est une manière de mettre en échec, d'abord au sein même de l'Irak, les chiites au pouvoir, mais aussi dans une perspective plus lointaine, de mettre en échec l'Iran, qui est le principal ennemi des Saoudiens. On se souvient qu'au tout début des années 80, quand les chiites se sont installés à Téhéran, Et il y a eu, pendant les années qui ont suivi, et puis même déjà un petit peu avant, un certain nombre d'attentats qui avaient été commis par un schisme expansionniste à l'époque, et y compris sur le territoire saoudien, qui avait été réprimé très violemment par les sunnites saoudiens, et qui donc trouvent tout à fait intéressant la présence de cette construction califat, qui en même temps le permettra peut-être, d'ailleurs c'est ce que escompte, et puis d'ailleurs peut-être aussi les instances internationales, y compris occidentales, qui sont pas éloignées de toujours pratiquer le cynisme au degré le plus bas, de penser que ce califat, c'est-à-dire le IIL, va peut-être permettre de détruire Al-Qaïda et donc de passer à une autre étape, d'éliminer ces terroristes islamisants incontrôlables, dit-on, y compris par les Saoudiens.
Voilà pour ce sujet. On va peut-être aussi parler de l'Ukraine qui est d'actualité. D'abord, un événement qui est peut-être non, pas vraiment un fait divers, surtout pas pour ceux qui ont été libérés. Donc, les quatre derniers otages arrêtés de l'OSCE au moment des élections ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche. Les quatre autres l'avaient été la nuit de jeudi à vendredi, donc dans la zone autonomiste de Doppler. Donc ça, ben tout le monde s'en satisfait, d'un côté comme de l'autre. Et autre événement plus politique, plus diplomatique, il y avait cet après-midi, peut-être elle est terminée, peut-être pas, conférence téléphonique entre la Russie, le président russe, le président ukrainien, Madame Merkel, Monsieur Valls ou Monsieur Hollande, je sais pas, peut-être Monsieur Hollande. Donc sur le thème du prolongement du cessez-le-feu qui doit s'arrêter ce soir à 21h. Et les Russes eux-mêmes déclarent qu'ils souhaitent le voir se prolonger. On peut penser qu'ils n'auront pas trop de mal à tomber sur un accord en matière de prolongation de cessez-le-feu, ce qui ne règle pas pour autant tous les problèmes en suspens.
Ça nous permet de parler de l'Europe, et tu as commencé à le faire, de cette Europe qui vient de se donner un nouveau Parlement qui ressemble un peu comme un frère ou une sœur au précédent, avec légère modification des rapports de force, mais et puis avec, pensait-on, cette idée que c'est le Parlement européen qui allait avoir la maîtrise de l'organisation de la Commission, puisque c'était dit comme ça, que c'était le Parlement qui allait élire la Commission. Mais en fait, les États ont pris les devants et ont maintenu les principes précédents et ont voté déjà à la quasi-unanimité, puisque manquait au vote que Cameron, l'anglais, et Orban, le hongrois, pour mettre en place Juncker, le luxembourgeois Juncker, à la tête de la Commission, c'est-à-dire fait une pression extraordinaire sur et antidémocratique, une pression sur le Parlement. Alors effectivement, le Parlement, il pourrait dire non, ça ne nous convient pas, mais il est évident que tous les arrangements auront lieu dans la coulisse pour que le Parlement européen ratifie ce choix des présidents et des présidents européens. C'est un mauvais coup, mais on s'attendait à ce que ça allait se passer comme ça. Et on n'y croyait pas trop lors de l'élection du Parlement européen. On n'avait pas beaucoup d'espoir que ce Parlement allait avoir véritablement le pouvoir qu'on lui prétendait, qui devait être le sien, à l'issue d'ailleurs de ce qu'étaient les modifications apportées à son fonctionnement. Voilà, alors donc c'est Juncker qui sera le président de la Commission européenne pour remplacer Barroso. Et on reprendra cette formule, lui, dans l'Humanité, qui résumait les choses, mais c'était presque un lieu commun de dire que on passe ainsi, avec Juncker, du paradis fiscal au sommet européen. Et finalement, au lieu de détruire les paradis fiscaux, eh bien, on est en train de les conforter avec l'arrivée de ce personnage qu'on prétend hostile à la corruption. Et il a été 18 ans au pouvoir au Luxembourg et on en fait aujourd'hui un incorruptible. C'est incroyable.
Ouais, moi, je trouve que c'est une nouvelle formidable. Là, un mec qui a mis 18 ans à faire un paradis fiscal au Luxembourg, il va maintenant mettre 18 ans à faire de l'Europe un paradis fiscal. Quoi. C'est faire que ça, de toute façon.
Peut-être. Voilà, c'est l'objectif, oui, sans doute. C'est... Oui, oui.
Ah non, qu'est-ce qu'il faut pas voir. Alors, autre sujet, Israël, un petit peu, peut-être. Ah,
pour compléter le dossier européen, on voit l'arrivée du trublion Renzi, hein, le nouveau chef du gouvernement italien, qui, à sa manière, fait un peu comme son prédécesseur, c'est-à-dire fait des effets d'annonce terribles. Il a dit, par exemple, que le pacte de stabilité, avec cette obligation du 3%, ça tenait pas la route parce que ça empêchait la croissance et donc fallait le revoir. Mais il peut toujours dire ça. On sait bien que pour revoir cette chose-là, il faudrait un consensus au niveau des 28. Donc c'est exclu. Et par contre, Renzi dit mais de toute façon, moi je vais faire des réformes qui vont me permettre la croissance. Et les réformes qu'il propose, eh bien, c'est les mêmes réformes qu'on a vu fleurir dans tous les pays du bassin méditerranéen, c'est-à-dire de la Grèce à l'Espagne, et qui gagne peu à peu la France aussi, c'est de réduire, par exemple, tout ce qui touche les services publics, qui touche le fonctionnement social, culturel du pays. Voilà, c'est les propositions de Renzi, et qui donc va occuper à partir de demain la place de président de... je crois que tu avais bien repéré sa fonction.
L'Union européenne, non, c'est pas ça son titre, et puis j'ai pas noté.
Allô ?
Oui, je suis là. Mais j'ai pas noté, je sais plus, donc...
Oui, bon. En fait, c'est cette présidence tournante, c'était la Grèce qu'il l'occupait jusqu'à ce soir minuit. On s'étonnait d'ailleurs, on était scandalé que la Grèce acceptait d'être là-dedans, mais c'était son gouvernement de droite qui était dedans, et qui donc passe le relais à l'Italie pour participer un peu à cette gestion de l'Europe.
À propos de l'Italie, je voulais ajouter quand même qu'il aura aussi à gérer le problème de ses migrants. Il va essayer de leur filer à tous les autres. Il faut savoir donc qu'on a vécu là un très mauvais week-end. 1700 personnes sont arrivées pendant le week-end dans 7 bateaux. Et dans un de ces bateaux, il y avait 30 personnes noyées à l'avant du bateau, sans doute par étouffement ou par une arrivée d'eau. C'est énorme, c'est pas seulement ce week-end, puisque depuis le début de l'année, on est déjà à 60 000 migrants débarquant sur les côtes italiennes. Il y en avait eu 63 000 l'année dernière, et parti comme cela est, les prévisionnistes en la matière pensent qu'on arrivera à 100 000 migrants débarquant en Italie. Inutile de vous dire que les Italiens ne souhaitent pas garder tout ce monde-là sur le sol italien. Et ça pourrait bien être une des tâches de Renzi que d'essayer d'organiser autrement l'accueil des migrants sur les territoires européens. Oui, Israël, je disais, il y a plusieurs choses à dire sur Israël. Il y a les menaces qui pèsent sur Gaza. On a l'impression que Netanyahou veut profiter de l'enlèvement des 3 jeunes pour aller mettre ses militaires un peu partout dans les zones où ils n'étaient pas en permanence. Et au prétexte qu'ils pourraient être à Gaza, il est question d'investir des territoires sur Gaza. D'autre part, il y a un projet de construire une barrière à l'est, comme il y en a une au nord et au sud, une de ces barrières infranchissables. Il y a vraiment un enclavement de la Palestine là qui se met en place. Et pour finir, il y a ce projet de loi qui verra peut-être pas bien le jour, on ne sait pas, mais en tous les cas, qu'on peut bien assimiler à un projet de torture légale, puisqu'il s'agirait de gaver de force les détenus en grève de la faim. Alors, on prend des précautions oratoires, du genre, si la vie est en danger, avec l'accord d'un médecin, en les anesthésiant s'il le faut, ben tiens donc. Tout ça, c'est des méthodes qui ressemblent furieusement à des méthodes de contrainte et de torture, telles que celles qu'on a vues à Guantanamo. C'est l'État d'Israël qui aimerait donc voter une telle loi, à un moment où, par ailleurs, les détenus qui étaient en grève de la faim depuis un certain nombre de semaines, on vient d'arrêter leur grève de la faim.
Voilà. Oui, on sait que tout ça s'inscrit dans la stratégie d'Israël de tout faire pour casser l'accord qui était intervenu il y a quelques semaines entre l'OLP et puis Gaza.
Voilà, as-tu d'autres sujets internationaux où on fait notre pause musicale?
Il y avait simplement une initiative de l'Union africaine qui vient de terminer son 23e sommet. Et l'Union africaine a décidé de mettre la Libye sous tutelle, estimant que les Occidentaux étaient incapables de gérer quoi que ce soit sur la Libye, comprenaient rien du tout à ce pays-là, sauf à lui soutirer du pétrole éventuellement. Et donc la tutelle sera principalement exercée par les deux voisins proches, c'est-à-dire l'Algérie et la Tunisie. Alors il y aura également le Soudan qui est lié à cette tutelle, mais en gros c'est l'Algérie et la Tunisie qui vont tenter de mettre un peu d'ordre en Libye, qui viennent voter. Très peu d'électeurs, dépouillement toujours pas connu, des attentats tous les jours à Benghazi, enfin, le chaos pratiquement en Libye.
Allez, pause musicale, on va la faire avec Remo Gary, un ami de Radio Canu, qui nous parle de ses copains, les ouvriers de plâtre.
Voilà les ouvriers de plâtre, leurs clés de sol et leurs pinceaux.
Voilà les ouvriers de plâtre, leurs clés de sol et leurs pinceaux.
Qui bossent à la pièce de théâtre, qui font que des petits morceaux.
Qui bossent à la pièce de théâtre, qui font que des petits morceaux.
Voilà les brûleurs de plateaux, voilà les façonneurs de troubles,
qui mettent à usiner leurs mots, les bouchers doubles.
C'est des faiseurs de superflu, c'est du bonheur, c'est des heures sup.
C'est des faiseurs de superflu, c'est du bonheur, c'est des heures sup.
Ça paye pas, ça paye plus, et ce n'est qu'un marché de dupes.
Ça paye pas, ça paye plus, et ce n'est qu'un marché de dupes.
Contre un peu de remue-ménage, si vous leur jetez quelques roubles,
ils mettent pour faire les singes, les bouchers doubles.
Leur droit du travail est écrit dans leur convention affective. Ils réclament à corps et à cri, aimez-nous sans alternative.
Ils réclament à corps et à cri, aimez-nous sans alternative.
Ils jouent les patrons, les vedettes, sans retenue, ils se dédoublent.
Pour faire tous les gens, ils mettent les bouchers doubles.
C'est pas vraiment des ouvriers, c'est des apprentis des arpètes.
C'est pas vraiment des ouvriers, c'est des apprentis des arpètes.
Ils sont même pas spécialisés, leurs mains ils les ont dans la tête.
Ils sont même pas spécialisés, leurs mains ils les ont dans la tête.
Ils empoignent pour l'écriture un crayon, un verre de chirouble,
et mettent à la manufacture
les bouchers doubles.
Voilà les ouvriers de plâtre, leurs clés de sol et leurs pinceaux, qui bossent à la pièce de théâtre, qui font que des petits morceaux.
Ils sont, ils savent bien l'admettre, sans faire ni du gras ni du double,
mieux ici qu'à l'usine à mettre
les bouchers doubles.
Voilà les ouvriers de plâtre, leurs clés de sol et leurs pinceaux. Voilà les ouvriers de plâtre, leurs clés de sol et leurs pinceaux. Voilà les ouvriers de plâtre, leurs clés de sol et leurs pinceaux.
voilà les ouvriers de plâtre, leur pied de sol et leurs pinceaux. Voilà les ouvriers de plâtre, leur pied de sol et leurs pinceaux. Voilà les ouvriers de plâtre, leur pied de sol et leurs pinceaux. Voilà les ouvriers de plâtre.
Primo Gary et ses ouvriers de plâtre, c'est un peu l'hymne des intermittents, ça. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, le Canu Info du lundi 30 juin, du dernier Canu Info du mois de juin, mais il y en aura d'autres en juillet. Et nous abordons ainsi notre rubrique nationale. Ben, quelques mots des intermittents, la lutte continue. On a une visibilité qui se perd un petit peu, puisque le gouvernement, contre vents et marées, a fini par signer un accord avec le MEDEF. Ça, c'est intouchable. Donc, accéder à cette signature. Les intermittents, de leur côté, sont un petit peu embêtés et puis forcément divisés entre ceux qui ont besoin de travailler, qui veulent travailler et aussi qui veulent défendre leurs droits. Grève ou pas, les syndicats hésitent à donner des consignes de grève et refusent de les donner, laissant à chaque sur chaque site de travail de festival, en fait, la base décider si elle fera grève ou pas, ou si elle, quelle forme de grève, quelle modalité elle va adopter. Alors, le festival d'Avignon aura-t-il lieu complètement, partiellement, pas du tout? La question n'est pas complètement réglée ce soir, mais il y a déjà un certain nombre de manifestations qui ont largement souffert du mouvement. Côté gouvernement, ça bouge pas, on attend que les gens en s'usent et lâchent le morceau, au risque de gaspiller des tas de festivals, de spectacles et tout ce qui va autour, la joie du public, l'argent des collectivités, le moral des artistes et ainsi de suite. Robert, as-tu quelque chose à ajouter avant de passer à un autre sujet?
Oui, rappelez que sur le fond du dossier, le MEDEF n'a qu'un but, c'est de supprimer. Il ne veut plus entendre parler des intermittents. D'ailleurs, il dit c'est une spécificité française. Il n'y a pas de raison que dans l'Europe d'aujourd'hui, ça continue d'exister. Donc, il faut remettre tout ça dans le cadre du système d'indemnisation, Pôle emploi, etc. Donc, revoir complètement le système et ne pas tenir compte de la spécificité du type d'activité, soit des artistes, soit des techniciens. Un petit mot simplement, par rapport, tu as signalé effectivement que, je crois que ce soir, ça devait voter, notamment à Avignon. Ce qui est déjà annoncé, c'est que le festival OFF, lui, va se tenir, bien que participant à la solidarité. D'ailleurs, pour exprimer cette solidarité, lors de l'ouverture samedi du festival OFF d'Avignon, la traditionnelle parade sera remplacée par une marche silencieuse pour dire, ben voilà, nous aussi on a écrit comme les autres au pouvoir, au gouvernement. Le gouvernement ne nous a pas répondu, il reste silencieux, donc nous serons pendant 3 heures silencieux dans les rues d'Avignon. Et puis au terme de cette marche silencieuse, eh bien elles vont expédier des messages par ballon interposé au gouvernement, et il y aura un lâcher important de ballons. Alors, c'est une marche silencieuse qu'ils veulent à la fois silencieuse mais pas triste. Alors, c'est des fois difficile, parce qu'en France le silence s'apparente trop souvent à la tristesse. On va voir, ben, peut-être que là aussi le sens de la création l'emportera.
Voilà ce sujet. Eh ben, d'un mouvement, d'une lutte sociale à une autre, on peut peut-être en venir à celle du patronat, qui est extrêmement actif ces jours à l'approche de la conférence sociale Gattaz, mais la pression sur le gouvernement de tous les côtés est un goinfre, celui-là. Il en aura jamais assez. Plus on lui en donne, plus il en veut, quoi. Alors, il y a des revendications patronales qui s'opposent aux sujet de discussion de cette conférence sociale, par exemple un quota de stagiaires dans les entreprises sur 6 mois et des indemnités plus correctes. Ça aussi, c'est la fin du monde pour le patronat.
Conférence sociale qui est la semaine prochaine, hein, début de semaine prochaine, je crois.
Les dirigeants harcelés et victimes de défiance par ce pouvoir qui ose leur proposer des avancées dans ce sens-là. Le temps partiel limité au minimum à 24 heures par semaine, ça les débecte complètement. Je dis, tant qu'ils n'auront pas rétabli l'esclavage, ils s'arrêteront pas, quoi. Et voilà. Et aussi, ils souhaitent, alors, le compte de pénibilité, ou alors ça, c'est d'une complexité, on pourra pas le mettre en place avant janvier 2016. Et toc, un an et demi de gagné. C'est les demandes de monsieur Gattaz, quoi. Et pas tout seul, puisque là, les Bertrands sont très unis, ça va des PME aux membres du CAC 40. Et par contre, les 1 million d'emplois, un peu d'amnésie, peut-être une touche d'Alzheimer, on a complètement oublié, il ne sait plus de quoi il s'agit et il n'est pas question d'en parler. Eh bien, on est bien avec tout ça.
Hein. Oui, la pénibilité, c'était le grand succès revendiqué par la CFDT. La CFDT avait dit, notamment, s'il signait cet accord sur le pacte de responsabilité, ou c'est même, ça date peut-être même d'avant, oui, c'est peut-être dans l'accord national interprofessionnel, je sais plus. Toujours est-il que la CFDT en avait fait son cheval de bataille et elle disait qu'elle avait remporté une grande victoire en amenant le MEDEF à signer sur la pénibilité. Et aujourd'hui, ben, la CFDT, elle est mal en point, parce que effectivement, ou bien effectivement, on attend sa réaction, mais pour l'instant, c'est un silence assourdissant du côté de la CFDT.
Voilà, que dire d'autre dans tout ça? Ben, on peut dire quelques. On arrive au 1er juillet, hein, demain, donc. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent pas beaucoup, mais par exemple, donc le temps partiel, normalement, à partir de demain, est limité à 24 heures minimum, sauf les étudiants, les intérimaires, les emplois chez les particuliers, quand même. On devrait quand même, comme le gouvernement a constaté qu'en 3 ans, il y avait 37 000 emplois à domicile qui ont fondu, sans doute en travail au noir, compte tenu des baisse des avantages associés, on devrait donc apporter 200 millions de soutien sous forme d'un abattement forfaitaire des charges patronales pour essayer de remotiver les plus riches à réemployer des gens de maison. Le gaz, ça c'est la petite action de Ségolène Royal, devrait diminuer de 0,3% pour les gens qui l'utilisent pour se chauffer et de 1% pour ceux qui font la cuisine et de l'eau chaude avec. Ce que je me demande bien, c'est comment ils vont faire pour séparer le gaz qui est utilisé pour faire la cuisine de celui qui va dans les appareils de chauffage. Ça, ils sont très forts s'ils y arrivent. Hein. Et puis, il y a aussi, dans les choses qui sont décidées là, ce 1er juillet, un projet de privatisation des examens du code de la route avec, dans un premier temps, en particulier la partie code, hein, des examens, puisqu'on manque d'inspecteurs, paraît-il, et que ça entraîne des délais pas possibles pour les gens, certains coins. Et la solution, ils n'ont rien trouvé de mieux que de confier ça à des gendarmes en retraite. On les croyait en retraite, ceux-là, ben non. On veut les remettre au boulot. Sans doute, ça leur fera un double salaire à eux. Pendant ce temps-là, les chômeurs attendent du boulot. Donc, des gendarmes en retraite qui pourraient faire passer les examens du code pour délester un peu les autres. En ce qui concerne les prestations sociales, les médicaments, vous n'allez plus avoir sur vos médicaments le prix. Ça, c'est pratique pour faire bouger les prix. On peut même pas, il n'y a même pas à changer l'étiquette ou à la raturer. Et il n'y aura même plus le taux de pourcentage de prise en charge par la Sécu. Comme ça aussi, le jour où on vous changera le taux de prise en charge d'un médicament, vous n'aurez même pas le plaisir de vous en rendre compte, ou le déplaisir, plus sûrement. Le chômage, une augmentation substantielle. Avec ça, ils vont pouvoir partir en vacances. Les indemnisés à des auteurs devraient voir leur augmentation d'indemnité chômage de 0,7%. pour 65% des indemnisés seulement. Un mauvais coup, mais ça c'est peut-être pour les patrons surtout, les ruptures conventionnelles qui jusque-là, hein, vous savez ce que ça veut dire, quoi. On s'arrange avec le patron, il vous file une somme d'argent, vous êtes licencié, moyennant quoi, c'est une rupture conventionnelle, après vous courez aux ACEDIC et vous touchez votre indemnité. Jusque-là, fallait quand même attendre 75 jours. Autrement dit, on devait bouffer une partie du magot de la rupture avant de pouvoir toucher les ACEDIC. Là, on passerait à 180 jours. C'est-à-dire que c'est plus du double. Ça veut dire que là, il y a des chances que le magot de la rupture, il y passe tout entier. Du coup, ça devrait rendre ce mode de licenciement extrêmement favorable au patronat et qui en a usé et abusé, moins intéressant, bien sûr, qu'avant.
Favorable au patronat et aux banques, parce que les gens vont être obligés. Bon, ils offrent la garantie de toucher cette somme dans 6 mois, mais ils vont emprunter évidemment à des taux prohibitifs, hein, à 15%.
Ben, normalement non, puisque l'indemnité, ils la touchent, c'est leur allocation chômage qui touche au bout de 6 mois.
Ah oui.
Donc l'intérêt, c'était de toucher l'allocation de chômage tout de suite, et puis de garder l'indemnité, ben, je sais pas, pour acheter une caravane ou un camping-car. Mmh. Et là, il va falloir qu'ils changent de modèle de camping-car, quoi. Plus petit.
Sur le social, il y a toujours les conflits majeurs, notamment la SNCM, la Société Nationale Corse Méditerranée, qui va sans doute être découpé en petits morceaux, bien que là-dedans, le gouvernement, enfin l'État, nous, toi, moi, on a 20% quand même du capital, mais pour l'instant, ça semble pas du tout passionner Montebourg, ce genre de dossier. Il préfère le dossier de sa région, c'est-à-dire Alstom, qui est son secteur de prédilection. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant de négocier, de discuter avec les Américains qu'avec les gens du Sud, les Italiens, ou je ne sais trop qui autre. Toujours est-il que la SNCM, enfin le syndicat CGT, les syndicats CGT, qui sont très largement majoritaires, même en position de domination, organisent demain 1er juillet, sur le vieux port de Marseille, un grand rassemblement en fin de matinée pour demander l'intervention du gouvernement et le maintien de l'entité SNCM. Avec la possibilité effectivement de faire que elle ne soit pas concurrencée déloyalement par Corsica, la société italienne. Sur le dossier Alstom, eh bien c'est extraordinaire parce que c'est une bataille d'experts pour juger de la qualité de l'accord. Alors voilà, les experts, ça c'est une profession qui n'est pas du tout en chômage, hein, parce que vraiment ça se multiplie exponentiellement le métier d'expert. Tout le monde est expert, enfin tout le monde naturellement, il faut voir où ça se situe, et ça glose énormément sur l'accord CGE Alstom. Alors il y a toutes les variables, bien que toutes se situent dans le domaine d'une approche capitalistique et pas du tout dans une approche les experts qui proposent la création de coopératives ou d'intervention des travailleurs dans la nouvelle entité, bien ceux-là ils n'ont pas la parole dans l'ensemble des médias. Voilà, c'était les gros dossiers. Il y en a toujours d'autres. Ça ne manque pas.
Ouais, on va faire
on ne sait pas trop parler, faire bilan de la grève à la SNCF, qui est une grève qui a quand même fait comprendre, mais était suffisant, fait comprendre derrière les difficultés éprouvées par les usagers, qu'en fait, c'était un enjeu politique européen, international même, c'est-à-dire la défense du bien commun, la défense des services publics, qui était en toile de fond, comme elle est pratiquement actuellement dans tous les dossiers. Et d'ailleurs, on notait que une question d'un examen, je crois que c'est dans l'examen de brevet ou de bac, je sais plus. Enfin, carrément, maintenant on pose carrément la question aux gens, on leur dit expliquer en quoi finalement la flexibilité dans l'emploi va permettre de réduire le chômage. Voilà, c'est, on ne se cache même plus pour faire corps avec l'idéologie dominante dans les examens. Et il faut naturellement, il faut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, sinon on se retrouve avec un zéro à la sortie.
Eh bien, zéro à la sortie, c'est bientôt les vacances, on peut parler un tout petit peu d'enseignement. Le capitaine de pédalo rétropédale à toute allure ces temps, enfin sur beaucoup de sujets. Et sur l'école aussi, puisque il y a cette histoire d'expérimentation qui avait été faite dans 275 écoles, sur 48 000, hein, d'un ABC de l'égalité des hommes et des femmes dans différentes situations de la vie. On sait que cette expérience a été violemment instrumentalisée par la Manif pour tous et l'extrême droite, allant jusqu'à provoquer une grève le 27 janvier, enfin une journée de retrait de l'école, de protestation le 27 janvier. Eh bien finalement, ce gouvernement qui là-dessus comme sur le reste cède facilement, moins quand il s'agit de gens de gauche qui réclament quelque chose d'ailleurs, mais aux gens de droite et au patronat, il ne s'est rien refusé. Eh bien voilà qu'il a donc abandonné la généralisation de l'ABCD de l'égalité, comme ils l'ont appelé. Et que finalement, au lieu de former les enfants et d'informer les enfants, on va former les profs. Ah bon, ils l'étaient pas. Ben non, ils l'étaient pas. Alors on va leur faire une jolie mallette avec laquelle ils vont pouvoir partir en vacances. Et dans la mallette, ben, je sais pas trop ce qu'il y aura, mais sûrement de quoi lire, s'instruire. Et puis avec ça, on espère qu'ils en feront bon usage à la rentrée. En tous les cas, on a surtout l'impression d'une mesure dilatoire pour avoir l'air de ne pas trop reculer tout en reculant. Vous savez, comme quand on met ses souliers à l'envers pour faire croire qu'on sort quand on rentre.
Faut-il en rire ou faut-il en pleurer? Voici que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et du Développement aussi. Alors voilà, au nom du Développement, il a pris sa mallette et il va faire la propagande pour défendre le tourisme français. Et il s'en prend à une petite majoration qui était laissée à l'appréciation des hôteliers sur cette fameuse taxe, je ne sais pas comment elle s'appelle,
taxe locale, de séjour,
qui s'ajoute à la note dans les hôtels. Effectivement, d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi ça existe, mais ça existe. Et Fabius est contre, il dit que ça va tuer le tourisme en France si jamais on se met à appliquer cette augmentation qui a été votée par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Voici donc un Fabius très remonté, visiblement qui passe plus de temps sur ces petites questions qui sont mineures, enfin mineures, c'est pas mineur globalement, mais par rapport à ce que devrait être son activité. Mais est-ce parce que finalement il estime que la cellule internationale de l'Élysée gère la politique internationale et que finalement lui il sert pas à grand chose et qu'il faut bien qu'il trouve de quoi s'employer? Ouais. Est-ce qu'on dit un mot des problèmes de la bande à Sarko là en ce moment qui ont des choses à raconter aux policiers?
Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Moi, je n'ai rien prévu. Vas-y. Oui. Non, je voulais. Bon, je te laisse te préparer. Pendant ce temps, je voulais dire un mot des manifs dans les régions avec Nantes, qui a une grosse manifestation pour demander son rattachement à la Bretagne. Les réorganisations arbitraires des régions engendrent quand même quelques secousses ici ou là. Et les Nantais, qui se sont toujours considérés comme bretons, on a d'ailleurs du mal à imaginer que ça puisse être autrement. Et ça va finir sûrement comme ça, donc se mobilisent. Puis en Alsace-Lorraine aussi, moins de monde, mais Colmar, Mulhouse refusent la fusion de l'Alsace et de la Lorraine aussi dans leur... dans une seule région. Et puis, il va falloir dire quelques mots de la grande manif des 4 et 5 juillet à Notre-Dame-des-Landes. Grande manif d'opposition aux grands chantiers, aux grandes opérations de construction. Alors, il y a bien sûr cet aéroport, il y a aussi Lyon-Turin, il y a l'OL-Land. Et dimanche, à Mornant, ben, il y avait une manifestation, un regroupement de tous ces opposants pour préparer la manif du 4 et 5 juillet à Notre-Dame-des-Landes.
Qui n'intéresse beaucoup moins la presse depuis que Hérault n'est plus Premier ministre. Hein. C'est étonnant, non?
Bon, on va voir si c'est le signe d'un recul ou pas du pouvoir là-dessus pour le moment. C'est vrai qu'il ne se passe plus rien. On attend peut-être que les militants s'usent et s'en aillent, mais ça n'a pas l'air de voir se passer comme ça. Tu avais d'autres sujets ?
Oui, tu l'as peut-être signalé, là, j'ai pas. Les sénateurs ont d'ailleurs décidé, à propos du regroupement des régions, de repousser le dossier. Ils ne veulent plus en entendre parler pour l'instant.
Ah ben oui, ils sont dans une... Comme il y a des élections sénatoriales bientôt, c'est une catastrophe pour tous ces gens. Enfin, c'est pratiquement, on va en faire des chômeurs, quoi, si on divise tout par deux. Donc, ils sont violemment opposés à perdre leur place de sénateur. Et comme les sénateurs sont élus, justement, par ceux qui vont être les victimes, les maires, les conseillers généraux et autres, et à suppression des départements qui est dans l'air, hein, un jour, faudra bien y passer aussi. Ils préfèrent temporiser et pour le moment, donc, laisser tout ça en place et passer une élection. Après, ma foi, on verra.
Comme tu parlais des régions, eh bien, les Pays de Loire ont décidé de se passer de TAFTA, si jamais TAFTA, on va rappeler, hein, c'est le grand marché transatlantique qui se négocie clandestinement dans la coulisse entre des experts européens et des experts américains pour créer le libre-échange, c'est-à-dire que permettre que tout soit privatisé, y compris demain les services sociaux, l'éducation nationale, et puis, etc., etc. Et donc, Pays de Loire, après d'autres régions, après d'autres villes, après d'autres petites villes, eh bien, a voté une résolution en disant que pas question que en Pays de Loire, on appliquerait quoi que ce soit qui soit lié à ce grand marché transatlantique aussi longtemps que les choses ne seront pas mises au grand jour, que ce ne soit pas une discussion et un débat démocratique dans l'ensemble du pays et l'ensemble de l'Europe d'ailleurs. Voilà. Pays de Loire.
Voilà. Tu avais d'autres sujets? Il nous reste quelques minutes. On peut conclure là aussi. Enfin, j'ai peu d'annonces culturelles, si ce n'est dire que tout le monde dehors commence. C'est des spectacles quand même gratuits et qui sont quasi toujours de qualité, on peut le dire, dans un certain nombre d'endroits de Lyon pendant tout l'été. Donc, vous tapez tout le monde dehors sur votre ordinateur. C'est impossible de lister. Il y a des dizaines de choses intéressantes. On reviendra peut-être sur l'une ou l'autre d'ici quelques jours, la semaine prochaine.
Je ne sais pas si je t'interromps peut-être parce que là, je t'entends plus. Simplement, moi, je voulais simplement te poser la question. Est-ce que sur les murs de Lyon ou des murs que tu peux voir figure tagué le slogan, enfin c'est pas un slogan, hein, c'est ici ni FN ni FMI. Et je trouve que c'est un très beau slogan. Ici dans la région et notamment d'où je parle, eh bien il est tagué plusieurs fois, ni FN ni FMI. Je trouve que c'est un très bon repère politique.
Oui, mais écoute, pour Lyon, je ne sais pas te dire. Comme j'ai été absent quelques jours et que ça doit être tout chaud, tout bouillant, ce slogan, je ne l'ai pas encore vu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas à plein d'endroits. Voilà, ce Canu Info donc se termine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout état de cause. Et puis, dans la semaine, malgré que c'est les vacances, il va bien y avoir au moins 1, 2 ou 3 Canu Info. On se quitte sur la musique du groupe Itinérance avec un morceau qui s'appelle La Strada. une valse charmante de Jean-Claude Guerre. Le Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h, bien sûr, et vous devriez pouvoir le réentendre sur Internet dès ce soir.